Le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Que reste-t-il après les factures, l'électricité, le gaz, les courses au supermarché qui ne cessent d'augmenter et la ceinture que l'on serre de plus en plus pour faire face? Les salaires sont-ils assez élevés en France? Visiblement non. C'est ce qui ressort d'une étude de la Banque Centrale Européenne sur les salaires dans la zone euro. Aurélien Fleureau, ce qu'on constate, c'est qu'en France, les salaires patinent.
Si vous prenez la carte des revenus médians de la zone euro, la France se situe devant l'Italie ou l'Espagne, mais derrière l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays scandinaves. Parmi les explications, la désindustrialisation qui a tiré les salaires français vers le bas. Et pour partager les richesses, il faut d'abord en créer, rappellent les économistes. Ensuite, ce sera le temps du débat, du choix politique. En Allemagne, les syndicats du secteur public ont demandé une augmentation des salaires de 5%. Autre exemple, le Japon, qui semble s'orienter lui vers des exonérations fiscales pour les entreprises qui vont augmenter les salaires. C'est une approche inédite, constate Christopher Dembick, directeur chez Saxo Bank, mais pas forcément duplicable en France.
Ce qu'on doit bien prendre en considération, c'est qu'on reste une économie de services avec aussi beaucoup de bas salaires dans les services. On le sait très très bien, notamment typiquement dans les soins à la personne. Donc il y a aussi la nécessité de revalorisation des salaires bas dans les services qui ont remplacé finalement le secteur industriel où on a eu cette désindustrialisation au cours des dernières décennies.
Et pour avoir des hausses de salaires généralisées, il faudra espérer une baisse du chômage. Dans la zone euro, le taux de 2019 avant crise pourrait être retrouvé dès l'année prochaine.
Aurélien Fleureau, la hausse des salaires, celle des prix de l'énergie et des matières premières, on l'aborde à 8h13 avec le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Il est l'invité spécial de la matinale d'Europe 1. L'occasion de revenir sur le parcours de cet homme qui a su résister aux tempêtes et aux alternances. Ministre de Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises, Bruno Le Maire avait échoué, on s'en souvient, à la primaire de la droite en 2016. Son résultat, 2,4% à peine. Et pourtant, après son élection en 2017, c'est lui qu'Emmanuel Macron nomme à la tête de Bercy. Avec un portefeuille très large, Louis de Ragnel, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Alors on s'interroge, jusqu'où ira-t-il ?
Alors, c'est la question que beaucoup se posent au gouvernement. Ses relations avec le président n'ont pas toujours été faciles. Emmanuel Macron l'a longtemps vu comme un potentiel rival, un concurrent, le traitant parfois avec mépris. Souvent, l'entourage du chef de l'État le cachait à peine. Mais Bruno Le Maire, qui avait très envie d'aller à Matignon, a finalement tenu bon, montrant à la fois sa capacité de résistance, mais aussi son poids politique. Sa place dans l'équipe gouvernementale n'a d'ailleurs jamais été contestée. Mieux, son implication dans la crise sanitaire et la mise en place du quoi qu'il en coûte ont été largement salués, y compris par les oppositions. Mais aujourd'hui, on se demande ce que va bien pouvoir faire le bon élève Bruno Le Maire après 2022. Être député, continuer à Bercy, aller au Quai d'Orsay, Matignon, Bruno Le Maire le sait. Emmanuel Macron changera très certainement les visages de son gouvernement s'il est réélu.
Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bruno Le Maire est donc dans nos studios et Jean Castex, quant à lui, est au Vatican. D'ici 2 heures, le Premier ministre rencontrera le pape François. Entretien organisé pour commémorer le centenaire de la reprise des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège en 1921. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Journaliste politique d'Europe 1, envoyé spécial à Rome, où vous suivez de près ce voyage ministériel. Évidemment, c'est surtout le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église française qui est dans les esprits ce matin.
Oui, cette visite officielle du Premier ministre vient percuter l'actualité. Inévitablement, Jean Castex va se retrouver tout à l'heure face au souverain pontife et aborder la question de la pédocriminalité dans l'Église. Je rappelle cette estimation du rapport Sauvé, 216 000 victimes mineures de clercs et de religieux en France depuis 1950. Alors ici, au Vatican, le pape avait déjà réagi suite à cette publication. C'est le moment de la honte, avait déclaré François avant de faire part de son immense chagrin. Ce matin, Jean Castex devrait se contenter de dire au pape que son gouvernement va suivre de très près ce que les évêques français vont mettre en place. Mais ce ne sera pas l'unique sujet, fait-on savoir du côté de Matignon. L'échange en tête-à-tête devra durer une trentaine de minutes. Jean Castex, qui pour cette rencontre ne vient pas les mains vides, il offrira au pape un exemplaire de la première édition de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, et figurez-vous d'un maillot du Paris Saint-Germain, dédicacé par Lionel Messi.
Et Jacques, à 6 mois de la présidentielle, on peut quand même dire qu'il y a un enjeu politique dans cette visite.
Sans aucun doute, l'image du Premier ministre d'Emmanuel Macron au Vatican aux côtés du pape, c'est loin d'être neutre à l'approche de la présidentielle quand on sait le poids de l'électorat catholique en France et de la popularité du pape François. D'ailleurs, en temps normal, le Saint-Siège fait tout pour éviter d'interférer dans les élections. C'est extrêmement rare que le souverain pontife reçoive un responsable politique si peu de temps avant une élection majeure dans son pays. C'est pour cette raison qu'initialement, cette visite était programmée bien avant, en mai dernier, mais il y a 5 mois, ce n'était pas possible avec le contexte sanitaire.
Jacques Serret, journaliste politique d'Europe 1 depuis Rome au Vatican.
En France, pendant ce temps, Emmanuel Macron lance, lui, un débat délicat aujourd'hui, les états généraux de la justice.
Le premier rendez-vous au palais des congrès de Poitiers cet après-midi. Objectif, recenser des idées concrètes pour réformer le système judiciaire, souvent critiqué ces derniers mois, tant par des policiers que par des familles de victimes. Mais le chef de l'État va devoir marcher sur des œufs à quelques mois de la présidentielle. Le débat pourrait être explosif.
Europe 1, 8h06, 10 ans après la première plainte, c'est ce matin que s'ouvre le procès des sondages de l'Élysée.
5 anciens conseillers de Nicolas Sarkozy sont sur le banc des prévenus, notamment Claude Guéant et Patrick Buisson. Ils sont soupçonnés de favoritisme et de détournement de fonds publics. Le procès doit durer 1 mois au tribunal correctionnel de Paris et répondre à cette question: ont-ils ou non favorisé des sociétés pour mener des centaines de sondages sous la mandature Sarkozy au mépris de toutes les règles de marché public, Gladys Laffitte?
Parmi près de 300 sondages commandés par l'Élysée entre 2007 et 2009 à plusieurs entreprises, 235 l'ont été à la société de Patrick Buisson, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy. Selon les enquêteurs, ils étaient vendus avec une marge de 65%, soit un bénéfice d'1,4 million d'euros. C'est une convention signée avec l'Élysée qui régissait cet accord, en violation des règles de la dépense publique selon Anticor. Maître Jérôme Carsenti est l'avocat de l'association Anticorruption.
Ça disait, ces sondages, vous pouvez les commander sur les thèmes que vous voulez, sur la quantité que vous voulez. C'était un chèque en blanc qui était donné à Patrick Buisson. Derrière se pose en réalité la question plus profonde de l'instrumentalisation par le chef de l'État de cet argent public à des fins de communication et de propagande électorale, et c'est derrière le sous-titre de ce dossier.
Selon la Défense, ces contrats noués avec des entreprises de confiance faisaient partie d'une tradition à l'Élysée et échappaient donc aux règles de la dépense publique. Couvert par l'immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy n'est pas mis en cause. Il est cité comme témoin, mais n'a pas l'obligation de se présenter devant le tribunal.
Gladys Laffitte.
Quitter la grisaille, le métro, les foules pour le grand air du Grand Est.
C'est ce que propose le département de la Haute-Marne, qui surfe sur le ras-le-bol des citadins. Avec les confinements, de nombreux Parisiens ont décidé de quitter la capitale. Les écoles parisiennes ont d'ailleurs perdu 5% de leurs élèves. Alors la Haute-Marne, qui manque d'habitants, s'est associée à l'agence Laou pour leur faire les yeux doux. Ce week-end, ils étaient même invités à une découverte privilégiée de Nogent. Opération Séduction qu'a suivi Mélina Fachin pour Europe 1.
Je suis d'abord ravie de vous accueillir et en Haute-Marne et à Nogent.
Une quinzaine de familles parisiennes choyées tout le week-end ici dans le département le moins peuplé du Grand Est. Visite de logement ou encore rencontre autour d'un cocktail avec des recruteurs.
Vous m'enverrez votre CV, votre parcours, et je vous garantis que d'ici quelques semaines, vous aurez des nouvelles.
Okay. Car avec un taux de chômage de 6,5%, il y a du travail en Haute-Marne. Djellali Chaou, directeur départemental de Pôle emploi.
À la date d'aujourd'hui, on a 1000 offres dans tous les secteurs, tous les profils. Donc c'est effectivement une période extrêmement faste.
Pour Anne-Claude, son mari Patrick et leurs 3 garçons, il s'agit surtout de gagner en qualité de vie.
On habite dans un appartement, 900 euros de loyer, donc une maison et un jardin. Oh oui.
J'ai pas envie de changer d'école, mais c'est la nature, il y a les oiseaux, il y a du silence et on peut pêcher.
Si on pouvait venir au Marnais, c'est ça, c'est ça. Bon, on sera au Marnais dès aujourd'hui, si on pouvait. Hein.
J'étais à 100%, là je suis à 200%.
Et comme eux, quasiment toutes les familles venues ce week-end en Haute-Marne sont reparties hier soir vers Paris avec la ferme intention de ne plus y rester très longtemps. Nogent, Mélina Fachin, Europe 1.
Voilà pour ce reportage en Haute-Marne, ça fait envie. Le football pour terminer, la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir à domicile face à Lorient.
Les Marseillais ont atomisé les Bretons 4-1, carton plein pour le premier match depuis le décès de Bernard Tapie. Bussigné, Camara, Milik et un doublé de Guendouzi. Dimanche prochain, les Marseillais accueilleront le PSG au Vélodrome.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.